bien le bonjour, chers amis. Je suis Martin, étudiant en histoire et anthropologie à l'École normale supérieure et à l'École des hautes études en sciences sociales. Asseyez-vous donc au coin du feu ou sous un rayon de soleil et laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de l'île Dieu. On vous a menti. Les Romains n'ont jamais posé une seule sandale sur l'île Dieu. La redoute romaine, présentée comme la marque indubitable de la présence impériale sur l'île, est en réalité une construction gauloise, précédant de plusieurs siècles au moins la conquête des Gaules par Jules César. Alors, l'île Dieu serait-elle le véritable village d'irréductibles gaulois résistant encore et toujours à l'envahisseur romain ? Non plus. Il est fort à parier que les envahisseurs romains de la mémoire collective illaise, telle qu'elle a été mise à l'écrit pour la première fois au XVIIIe siècle, sont en réalité des Gaulois. Des Gaulois qui viennent chez d'autres Gaulois en se faisant passer pour des Romains. Il y a là un mystère à démêler et une histoire à raconter. L'histoire des premiers seigneurs de l'île Dieu. Historia Oia, l'épisode où les Gaulois se construisent une villa en bord de mer. Dans les épisodes précédents, nous parlions de mégalithes, de corbeaux, mais surtout de l'esprit rebelle des îlets. Néanmoins, pour qu'il y ait rébellion, il faut bien se rebeller contre quelqu'un. L'époque romaine est justement le premier moment de cette histoire où une puissance continentale a pris le contrôle de l'île Dieu. D'ailleurs, non loin de Kerchalon, on a récemment découvert une villa romaine. Eh oui, une villa. Enfin, n'allez pas vous imaginer une maison de vacances pour riches sénateurs, non. Dans l'Antiquité, une villa, une villa, c'est une exploitation agricole avec une grande maison centrale entourée de champs pouvant s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres. Tout ça exploité par des légions d'esclaves. Les riches propriétaires n'y mettaient que rarement les pieds, se contentant de récupérer l'argent ainsi généré. Pourtant, les Romains n'ont probablement jamais posé une seule sandale sur l'île Dieu. Désolé de devoir vous l'annoncer comme ça, mais lorsque Jules César est arrivé en Gaule, l'île Dieu, c'était le cadet de ses soucis. On ne va pas se le cacher, notre île a toujours eu juste assez de terres arables pour assurer sa propre subsistance. Alors ce n'était pas ces champs de blé qui allaient nourrir Rome. Néanmoins, vous pourriez me dire que c'est la position stratégique de l'île Dieu sur les routes maritimes atlantiques qui en a fait, tout au long de l'histoire, un enjeu des luttes de pouvoir. Ces ports naturels peuvent aisément abriter les navires et servir de point de relais entre l'estuaire de la Loire et le cabotage qui l'aille vers l'Angleterre ou l'Espagne. Vous auriez alors tout à fait raison. On peut même aller plus loin.
Mare, 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 mare. Mare, 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 mare.
Dans l'Antiquité, le bronze est un matériau central pour l'armement et les objets de la vie quotidienne. Or, pour faire du bronze, il faut de l'étain. Dans l'Antiquité, la seule alternative à l'étain du Proche-Orient est celui qui provient des îles britanniques. Bien avant que les Romains ne se mettent à la navigation, ce sont les Phéniciens, un peuple originaire de la côte du Levant, qui ont les premiers passé les colonnes d'Hercule, l'actuel détroit de Gibraltar, pour naviguer dans l'Atlantique. Ils ont ainsi pu remonter en cabotage jusqu'au nord des Gaules, en profitant pour fonder des cités comme Cadix. Voulant s'approprier cette nouvelle route vers l'étain britannique, les Romains ont espionné et suivi ces Phéniciens. Et effectivement, il a pu arriver qu'ils fassent relâche à l'île Dieu. D'ailleurs, c'est sans doute ces routes commerciales qui expliquent la découverte de pièces de monnaie impériale et de restes d'amphores à vin à l'île Dieu. Alors, pourquoi l'île Dieu ne serait-elle pas, dès cette époque, la porte de l'Atlantique et le point clé de cette route commerciale ? Alors, peut-être, mais si c'était le cas, les Romains auraient eu tôt fait d'y fonder une cité dont nous aurions les traces aujourd'hui. Alors, pourquoi l'île-Dieu n'était-elle pas déjà le joyau de la façade atlantique ? Pour deux raisons principalement. Tout d'abord, sa position à l'entrée de l'estuaire de la Loire n'a été intéressante qu'à partir du moment où la capitale et le cœur économique du royaume étaient au nord de la Gaule, du côté de Paris. Or, à l'époque romaine, Lutèce n'était qu'un petit bourg parmi tant d'autres. C'était Lyon, Lugdunum, la capitale des Trois Gaules. Et cela, car, et c'est la seconde raison du désintérêt pour l'île-Dieu, le commerce était centré sur la Méditerranée. Il faut attendre le 7e siècle et l'apparition de l'Empire de l'Islam pour que l'Europe se tourne vers l'Atlantique et la mer du Nord. Mais nous nous y arrêterons une autre fois. En attendant, dans l'Antiquité, il faut reconnaître que l'île-Dieu n'était qu'un rocher parmi tant d'autres. On voit mal César s'embêter à y envoyer une légion. Alors, si les Romains n'y voyaient pas d'intérêt, qui donc a fondé cette ville-là, pourtant bien romaine, à Kerchalon ? Pour répondre à cette question, il faut remonter au tout début de la conquête des Gaules, à Jules César, lui-même. I was raised by wolves, I was born to lead, and I starve till there's no more mouth to feed. There's a hand on my throat and a blade at my feet, but the weight of the world won't bend my knees. Broken bones, battle scars, I've seen the bloodshed carved in stone. When it's my sword, they won't forget. Au début du 1er siècle de notre ère, le sud de la Gaule est sous le contrôle des Romains depuis un bon bout de temps. Pourtant, un jeune général ambitieux, Caius Iulius Caesar, n'attend qu'une occasion pour repousser encore les frontières de l'Imperium romain. Cette occasion lui est offerte en 58 avant notre ère, lorsque les Helvètes, un peuple semi-nomade, décident de traverser un territoire sous domination romaine. Les alliances entrent alors en jeu et les légions de César commencent un long tour de Gaule pour soumettre une à une les tribus et coalitions gauloises. Mise au pas qui aboutit finalement à la défaite de Vercingétorix à Alésia en 52 avant notre ère. Bon, ça, c'est l'histoire officielle. Mais il faut bien comprendre que cette conquête n'est pas une invasion. L'objectif de César n'est pas de contrôler chaque village et chaque ferme. Il est plutôt dans une logique de vassalisation. En gros, il ne s'occupe que des élites. Par des négociations plus ou moins violentes, il force les aristocrates à devenir les vassaux de Rome, c'est-à-dire qu'il les oblige à lui envoyer des troupes et des impôts. Pour le paysan de base, ça ne change strictement rien. Peut-être ne sait-il même pas ce qu'est un Romain. Et ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que nombre de ces aristocrates gaulois se sont volontairement alliés à Rome. Ils voyaient là un intérêt économique ou politique en se mettant sous la protection de cet empire si riche et puissant. C'est le cas des Pictons. Les Pictons, c'est un peuple gaulois dont le chef-lieu était Lémonum, l'actuel Poitiers. Les Pictons contrôlaient le Poitou et le sud de la Vendée. Contrairement à leurs voisins, notamment armoricains, ils ont soutenu César et, pour le coup, ils ont misé sur le bon cheval. En effet, pour les remercier de leur loyauté, César leur a offert des bouts de territoire qui, auparavant, appartenaient à leurs voisins. Peut-être est-ce à cette occasion que l'île-Dieu s'est retrouvée sous leur giron. Mais, surtout, la loyauté des Pictons envers César a été récompensée par une intégration accélérée à la citoyenneté et à l'aristocratie romaine. Cela veut dire que Lémonum a été équipé très tôt d'aqueducs, de thermes et de tout le luxe du parfait petit citoyen romain. Surtout, les Pictons ont adopté un mode de vie à l'image de celui des sénateurs romains. On peut supposer qu'ils ont construit des villas pour rationaliser l'exploitation de leurs territoires agricoles. Ces villas ont dû se multiplier, notamment dans le sud de la Vendée, dont les habitants étaient considérés comme des sauvages mal dégrossis. Mais changeons un instant de point de vue. Imaginez. Vous êtes un habitant de l'île-Dieu. À part quelques marchands, vous n'avez jamais rencontré de Romains. Et soudain, vous voyez débarquer un gars, en toge, bien coiffé, rasé, parfumé, qui construit sa petite villa romaine sur le bord de la plage de Kerchalon. Sérieusement, vous ne le prendriez pas pour un Romain, vous ? Eh oui, peut-être que les fameux Romains qui seraient arrivés un jour sur l'île Dieu sont en fait des aristocrates pictons romanisés. Bon, d'accord, c'était peut-être des Gaulois romanisés et pas des Romains. Mais la question demeure. Que viennent-ils donc faire à l'île Dieu ? J'espère qu'ils ont une bonne raison pour avoir ainsi sorti les îlets de leur tranquillité et les avoir mis au travail. World domination, I don't gotta say it. 전엔 없던 두려움 변이 같아졌지. 난 다수로 볼 땐 set em on fire. 스스로 밝혀. I don't really care if you like me, like me. I don't really wanna play nicely, nicely. Oh, 답을 고른 게 정답인 선택. Open your eyes, come and bite me. Sharp teeth bite first. Real bad business, that's dirty word. Yeah, real bad business, that's dirty word. Real bad business, that's dirty word. Bold eyes, cold stare. Real bad business, that's dirty word. Real bad business, that's dirty word. Yeah, real bad business, that's dirty word. Work, work, work. Les premiers seigneurs de l'île Dieu ont construit la villa qui, dans les premiers siècles de notre ère, dominait la rade de Kerchalon. Pourtant, ce n'étaient probablement pas des Romains, mais des Gaulois, des aristocrates pictons même. On peut aisément imaginer qu'il fallait toute la puissance économique et politique de cette cité gauloise proche du pouvoir romain pour investir dans une île relativement reculée et y construire une villa tout équipée. Alors pourquoi faire cet effort ? Nous avons déjà vu que l'agriculture locale ne pouvait pas produire d'excédent pour l'exportation et que le commerce n'était pas assez important pour justifier le développement d'un port. La villa gallo-romaine s'inscrit d'ailleurs dans la continuité de l'occupation gauloise sur place. Dès l'âge de bronze, Kerchalon était le port principal de l'île, là où débarquaient les embarcations venues du continent. Cela explique la présence d'une tombe proto-historique à la pointe de Gilberge, et plus tard d'une habitation gauloise, sur les ruines de laquelle a été bâtie la fameuse villa. Peut-être cette villa est-elle plutôt liée à la pêche, qui a toujours été largement pratiquée sur notre île. Pourtant, il y a un problème de taille. Les villas romaines sont censées produire pour l'exportation. Or, aller de l'île Dieu jusqu'à Poitiers, le siège du pouvoir picton, ça prenait du temps à l'époque. Le poisson aurait eu 10 fois le temps de pourrir avant d'arriver à la table d'un riche aristocrate. D'ailleurs, les Romains étaient des obsédés de la fraîcheur du poisson, hein. À l'époque, le grand luxe, c'était de pouvoir montrer le poisson vivant à ses invités avant de le tuer devant leurs yeux et de le cuire, pour prouver qu'on ne leur servait pas du thon faisandé. Je vous rappelle en passant que l'île Dieu n'a commencé à exporter du poisson qu'au 19e siècle, grâce au développement des conserveries. On vous l'a déjà expliqué dans « À l'époque où l'île Dieu mettait la mer en boîte » sur Neptune FM. Or, à l'époque romaine, on n'avait pas encore inventé les rillettes de thon en conserve. Pourtant, peut-être était-ce bien du poisson que les pictons venaient chercher à l'île Dieu, mais sous une forme assez particulière. En effet, dans le kit du parfait citoyen romain, il y avait une sauce au doux nom de garum. Petite parenthèse gastronomique. Choisissez votre poisson bien frais. Puisqu'on est sur l'île Dieu, vous pouvez prendre du thon, mais si vous n'en avez pas sous la main, des maquereaux, des harengs ou des anchois suffiront. Vous prenez votre couteau en bronze, vous lui ouvrez l'abdomen et vous en extrayez les viscères. Mettez ensuite ces viscères dans un grand bol, ajoutez divers petits poissons et recouvrez le tout d'une bonne dose de sel. Pour ajouter du goût, vous pouvez verser une amphore de vin vieux. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à laisser macérer le tout au soleil pendant 2 à 3 mois. Pour finir, il ne reste plus qu'à filtrer le jus de la préparation. Et vous avez votre garum. Bon appétit! Si vous n'avez pas déjà régurgité votre petit déjeuner et que vous êtes curieux de goûter cette sauce à la romaine, on considère que ce qui s'en rapproche le plus est la sauce vietnamienne Nguoc Mam. Mais trêve de gourmandise. Un autre indice peut nous laisser croire qu'on produisait du garum à l'île Dieu. Le marais de la Guerche, juste à côté du site de l'ancienne villa, était probablement un marais salant à cette époque. Sel et viscères de poisson en circuit court. Certes, cette production locale ne pouvait même pas en rêve faire concurrence aux grands crus de Bétique ou de Pompéi. Cependant, peut-être était-ce assez pour la table d'un aristocrate picton qui cherchait à imiter les Romains. Et qui sait, cette sauce aurait pu justifier de transformer l'île-dieu en immense villa. Dans tous les cas, ce dont on peut être sûr, c'est que les possesseurs de la villa l'ont abandonnée, sans autre forme de procès, vers le deuxième siècle de notre ère. Cette date n'est pas sans importance. À la même époque, l'Empire romain connaît la première crise majeure de son existence. Les désastres militaires amènent à des mutineries, qui, elles-mêmes, tournent à la révolte. Ces soldats bandits constituent peu à peu de véritables armées en recrutant parmi les mutins, les esclaves et la paysannerie pauvre. Une fois assez nombreux, ils peuvent se lancer à l'assaut de cités d'importance, voire tenter de couronner leur propre impérator. Le marais vendéen, région reculée et partiellement délaissée, a pu fournir un terreau favorable à pareille sécession. En tout cas, c'est sans doute par un semblable soulèvement que le siège du pouvoir picton, la cité de Lémonum, l'actuel Poitiers, a été détruite au IIe siècle de notre ère. L'abandon, à la même période, de la villa de l'île-dieu peut être la conséquence du repli sur soi et de la perte de puissance de l'élite gallo-romaine. On ne saura jamais si des îlets ont participé à de semblables soulèvements, s'ils ont activement contribué à renvoyer les pictons sur le continent, ou s'ils se sont contentés de les regarder de loin faire leurs affaires entre continentaux. Quoi qu'il en soit, le règne des premiers seigneurs de l'île-dieu a été de courte durée. Mais ce n'était que le commencement, car bientôt, des aristocrates continentaux allaient revenir sur l'île. Cette fois-ci, ce ne sera plus au nom de l'Empire romain, mais de l'Église romaine. Si Rome est éternelle, elle se métamorphose.
Je me sens comme un agneau qui dit pardon au loup d'avoir été trop lent à lui offrir son cou, d'avoir pris trop de place, d'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge se tacher.
C'était Historia Oya avec votre serviteur Martin. Merci de m'avoir accompagné pendant cette exploration de l'histoire de l'île-dieu. On se retrouve très vite sur les ondes de Neptune. Et en attendant, vous pouvez découvrir d'autres podcasts d'Historia Oya sur le site neptunefm.com.
Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes.
Je ne veux plus supplier qu'on me rende mes nuits, mes rues sous les lumières des soleils de minuit. Ces fêtes qui comblent mes insomnies, sans l'ombre d'une main qui flotte et se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit des mea culpa, la chaîne à marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne.
Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes.
Faire cracher leur venin debout. Et je mangerai leur langue si c'est le prix du silence. Je mangerai leur langue si c'est le prix du silence.